Europe 1, il est 8h.
On a l'impression, si on s'écoute collectivement, que tout est terrible. Et en ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même.
Le constat d'Emmanuel Macron qui a fait part de son sentiment devant des étudiants à Amiens à 15 jours de la grève du 5 décembre, la crainte d'une coalition des colères.
Les appels à la grève qui se multiplient contre la réforme des retraites. Même les plus modérés, comme la CFDT Cheminots, ont rejoint le mouvement pour engager un bras de fer, il faut le dire, avec le gouvernement.
On voit qu'il y a deux thèses dans ce gouvernement. Ceux qui seraient prêts à remettre le pays dans le chaos. Et puis il y a une thèse de ceux qui voudraient négocier. Nous sommes dans le camp de ceux qui vont négocier.
Sur ce contexte social, votre invité à 8h15, Sonia.
Beaucoup va dépendre de lui, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Il appelle le gouvernement à sortir de la contradiction sur la réforme des retraites. Sa parole est attendue dans un tel contexte brûlant.
C'était il y a 3 semaines, l'incendie criminel du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Nous sommes retournés sur place où une minorité impose toujours sa loi au reste de la population.
La star Neymar, de retour ce soir face à Lille après une énième blessure. Son rythme de vie interroge. Il s'est autorisé une escapade à Madrid. L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, fataliste.
Je ne suis pas son papa, je ne suis pas la police.
Bon réveil à toutes et à tous, Thomas Tuchel, à la fin du journal de 8h. 8h01, bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mathieu Belliard, Sonia Mabrouk.
Notre pays est trop négatif. Emmanuel Macron a déploré hier, lors de sa visite à Amiens, la façon dont nous percevons collectivement la France.
Le président qui répondait à des questions posées par des étudiants, à 15 jours de la grève du 5 décembre, il appelle à prendre plus de recul.
On a l'impression, si on s'écoute collectivement, si on branche la radio, qu'on allume la télé, que tout est terrible. Enfin, on parle de conditions étudiantes. Comparons la France aux autres pays. On se rend plus compte en termes de taux d'accès à l'enseignement supérieur et d'accompagnement. Non mais c'est jamais assez bien, je l'ai dit, moi j'y crois, je veux me battre. Mais je veux juste qu'on prenne 2 pas de recul, le positif, la bonne perception d'une université, plus largement d'un pays, on est les premiers à le faire. Et en ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même. On a des difficultés, on les affronte. Est-ce qu'elles sont impossibles à affronter? Pas du tout. Est-ce que les choses vont moins bien qu'il y a 20 ans dans tous les sujets? Faux. Simplement, on a des difficultés qui sont liées à des vrais défis, sur le supérieur par exemple, qui est il y a plus d'étudiants. La génération 2000, elle est plus nombreuse que celle d'avant. Donc, on a des problèmes sur la recherche dans le sens où on n'a pas assez investi. Il faut quand même être positif et regarder les choses, c'est le meilleur moyen d'avancer.
Emmanuel Macron au micro Europe 1 de Jean-Rémy Baudeau.
La visite d'Emmanuel Macron dans la Somme intervient en pleine tension sociale. L'exécutif qui redoute la grève du 5 décembre qui pourrait s'annoncer massive.
D'autant que la contestation s'étoffe de jour en jour. Les 3 principaux syndicats d'EDF ont rejoint le mouvement, tout comme la CFDT Cheminots. La CFDT, syndicat pourtant qualifié de réformiste et qui a participé à toutes les réunions de concertation. Aurélien Fleureau.
Il y a ceux qui ne viennent pas aux réunions de concertation, la CGT Cheminots et l'UNSA RATP, syndicat numéro 1 dans leur entreprise. Et à la SNCF, il y a les réformistes, l'UNSA Ferroviaire, qui appelle à la grève mais qui espère faire bouger les lignes d'ici là. Et puis la CFDT Cheminots, pas totalement opposée à la réforme mais qui demande des avancées, notamment des engagements sur la clause du grand-père. Mais depuis hier, son secrétaire général Didier Aubert a l'impression que le gouvernement attend le bras de fer et ne fera rien d'ici au 5 décembre.
Il reste encore une dizaine de jours pour négocier. La balle est dans le camp du gouvernement. On voit qu'il y a 2 thèses dans ce gouvernement. Ceux qui seraient prêts à attendre le pire, c'est-à-dire mettre le pays dans le chaos. Et puis il y a une thèse de ceux qui voudraient négocier. Nous sommes dans le camp de ceux qui vont négocier. On peut minimiser les incidences sur ce conflit.
Les syndicats l'ont compris, si avancée il y a, cela viendra de Matignon, où le Premier ministre Édouard Philippe recevra les partenaires sociaux lundi et mardi prochains. Mais échaudés par ces réunions à répétition qui ne débouchent sur rien, les cheminots se préparent à une grève qui ira au-delà du 5 décembre.
Aurélien Fleureau pour Europe 1. Et votre invité Sonia est très attendue sur le sujet.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, le bras de fer se durcit. Jusqu'où ira-t-il? Laurent Berger est-il prêt au clash pour obtenir gain de cause? Ses réponses à 8h15.
C'était il y a 3 semaines, l'incendie criminel du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, vous vous en souvenez, incendie qui avait provoqué une très vive émotion au sein de la population.
Nous avons choisi de retourner sur place auprès des habitants de la cité de la Noé pour tenter de comprendre comment on a pu en arriver là. C'est l'enquête du 8h, bonjour Justin Morin.
Bonjour.
Vous avez passé plusieurs jours sur place, mais avant tout, il y a une chose qui vous a marqué en particulier.
Oui, il est 17h30, on est place du Pas, au cœur de la cité, la nuit tombe, l'éclairage public ne fonctionne plus régulièrement. Cassé par les dealers. Pour les habitants, l'atmosphère du quartier change radicalement.
On est totalement dans le noir. On voit rien, on ne sait pas s'il y a des jeunes cachés dans un coin, on voit strictement rien. Et ça, c'est un problème de sécurité.
Là, on y est en hiver, on n'a pas de lumière à 17h30. C'est vrai, il y a un danger.
Je ne sors pas la nuit, moi. À 5h30, je suis chez moi.
Et elle n'est pas la seule. Près de la gare RER, les habitants qui reviennent du travail marchent à tâtons, obligés de s'éclairer au téléphone pour rentrer chez eux. Et une fois qu'ils y sont, eh bien, ils y restent.
Mais il se passe quoi quand il fait noir ?
Du trafic de drogue. En fait, l'enjeu pour les dealers, c'est de maintenir cette obscurité pour opérer tranquillement. Les autorités décrivent un trafic local, on est loin de ce qu'on appelle une plaque tournante. Mais c'est suffisant, précise la maire Les Républicains, Catherine Arnoux.
Il y a une population qui souffre au quotidien d'une petite partie qui impose sa liberté par la violence, par les exactions et tout ça. Ça n'est pas tolérable.
Et à chaque fois que l'éclairage a été réparé, il a été recassé, des techniciens d'intervention se sont même fait agresser. Le prestataire ne veut plus intervenir.
Et ce qui rend tout très compliqué sur place, c'est que le moindre incident peut prendre des proportions démesurées.
Oui, c'est peut-être ce qu'il s'est passé d'ailleurs pour le cirque. En fait, le sentiment sur place, c'est que des vrais délinquants hors système violents peuvent mobiliser des plus jeunes et les faire basculer dans une nuit de violence. Avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Or, quand vous parlez à ces jeunes du cauchemar vécu par les riverains, eux n'en ont pas du tout conscience. Ce qu'ils répondent, c'est que la mère ne les écoute pas.
En vrai de vrai, les gens dans le Chanteloup, ils s'en foutent du cirque. Il y a d'autres problèmes.
Alors, on aurait dû faire un truc plus constructif pour les jeunes.
Créer de l'emploi. Avant, il y avait plus de moyens. On voyageait tout le temps. Tout le monde pouvait s'évader. Faut nous parler, on n'est pas des sauvages.
L'ancien maire descendait de sa mairie, il venait parler aux jeunes.
Mais ces arguments, la maire les entend régulièrement, mais elle se dit très affectée parce qu'elle a surdonné tout ce qu'elle peut pour sa ville.
Alors ce que l'on comprend, Justin, c'est qu'ils ont une nostalgie finalement de l'ancien maire.
Oui, une forme de nostalgie, une image idéalisée aussi de Pierre Cardot, 70 ans, ancien élu à la retraite, lui aussi de droite. C'est une figure encore très appréciée. Au lendemain de l'incendie, il est allé lui-même dans la cité pour demander aux jeunes ce qu'ils voulaient en présence de la maire. Il y a eu un vrai dialogue, ce lien reste très fragile, mais les habitants en attendent beaucoup.
C'était l'enquête du journal de 8h. Merci Justin Morin.
Cela faisait 8 mois qu'ils n'avaient pas pu se parler. Carlos Ghosn et sa femme ont échangé ce matin lors d'une visioconférence. L'ex-PDG de Renault-Nissan à Tokyo, où il est assigné à résidence pour des soupçons de malversation financière, et elle, à New York. Une communication sous très haute surveillance de la justice nippone.
Oui, bonjour François Zimret.
Bonjour.
Vous êtes l'un des avocats de Carlos Ghosn. Étonnante cette séquence depuis des mois. Aucune lettre, ni de SMS, rien, pas de message entre les époux Ghosn. On imagine à la fois une forme d'émotion dans cette conversation et en même temps, on sait que c'est une conversation surveillée de près.
C'est très difficile d'imaginer ce qu'ils ont pu ressentir. Vous savez, c'est vraiment un système totalement inhumain dont on mesure mal la violence. Après 130 jours à l'isolement, avec des interrogatoires sans cesse, sans avocat, la lumière allumée de jour comme de nuit, il a été effectivement privé de tout contact avec son épouse. Pas une lettre, pas un mot. Une interdiction absolue qu'on ne voit nulle part ailleurs dans le monde. Et là, ils ont eu le droit de se parler pendant une heure par vidéo en présence de personnes qui prenaient des notes et qui retransmettaient au juge et sur des termes déterminés, imposés à l'avance par le juge. C'est totalement surréaliste. On est au cœur d'un système honteux et inhumain. Vous savez, moi j'oublierai jamais que cet homme fut présenté tenu en laisse à des juges. Et là, il faut mesurer ce que ça veut dire en termes de dignité humaine. Ce qu'on a fait à cet homme, ça n'a rien à voir avec la justice.
François Zimret, vous parlez justement de la justice. Il n'y a pas encore de date précise du procès, peut-être pour le printemps 2020, dit-on. Dans quel état d'esprit se trouve Carlos Ghosn ?
Écoutez, c'est quelqu'un qui a été subitement, brutalement arraché à sa vie, active, à son entreprise, à sa famille et à la liberté, qui a été jeté dans ce système, dans une prison froide pendant 130 jours, qui n'a pas retrouvé la liberté aujourd'hui alors qu'il est présumé innocent. Et qui est combatif, qui est totalement convaincu de son innocence, d'une très serein par rapport aux faits, très déterminé à faire valoir son innocence. Et c'est d'ailleurs cela que n'attendaient pas les Japonais.
Maître Zimret, est-ce qu'il reçoit des soutiens ? Est-ce qu'en particulier, il a reçu le soutien à la visite de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui lui a témoigné peut-être justement d'un soutien dont il a besoin ?
On commence à sentir dans le corps social, dans la société française, la société y compris au niveau politique, à tous les niveaux d'ailleurs, dans tous les partis, on commence à sentir un changement de perception. Les gens réalisent qu'au bout d'un an, ce n'est pas normal. La violence qui lui a été faite ne ressemble pas à l'idée.
Mais est-ce qu'il a eu la visite de l'ancien président de la République, François Zimret ?
Oui, il a eu la visite de l'ancien président, avec l'aval d'ailleurs du président Emmanuel Macron. Et comme Nicolas Sarkozy l'a dit, il aurait jugé tout à fait anormal d'être sur place et de ne pas lui rendre une visite.
Merci.
C'est quand
à
même
vous,
quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour l'industrie française, pour l'industrie automobile, pour les relocalisations en France et pour l'emploi en France.
Merci à vous, maître François Zimbré, à notre micro, l'un des avocats donc de Carlos Ghosn.
Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant, direction les États-Unis. L'enquête en destitution visant Donald Trump qui poursuit son cours. Un témoignage clé à suivre.
Il est 8h12 sur Europe 1, la suite du journal, avec Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Il est confiant et sûr de lui. À mesure que la procédure de tentative de destitution progresse, Donald Trump semble paradoxalement être conforté. C'est ce qui ressort de différents sondages où le président américain gagne des points et distance ses opposants.
Des opposants démocrates qui maintiennent malgré tout la pression et assurent même que les faits reprochés aux locataires de la Maison Blanche sont bien plus graves que ceux commis par l'ancien président Richard Nixon.
En termes de Nixon's conduct, and Trump's conduct.
Si on compare Nixon et Trump, ce que nous avons ici est bien plus grave qu'un cambriolage de bas étage d'un QG de campagne démocrate. Nous parlons du gel d'une aide militaire à un allié en guerre. Ça va bien au-delà de tout ce que Nixon a fait. Ce président-là pense qu'il est au-dessus des lois. Et à mon sens, il n'y a rien de plus dangereux qu'un président immoral qui se croit au-dessus des lois. Et je voudrais juste dire aux gens qui regardent ici aux États-Unis et à travers le monde, nous valons mieux que ça. La séance est levée.
Adam Schiff, élu démocrate qui supervise l'enquête, comme toujours, au micro Europe 1, notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
Et nous allons rester sur la scène internationale pour évoquer ce séisme politique en Israël.
Benjamin Netanyahu mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour.
Le Premier ministre serait impliqué dans 3 affaires différentes.
Oui, le Premier ministre Netanyahou a sa place assurée dans les livres d'histoire avec 3 records. Plus jeune chef de gouvernement d'Israël, celui qui est resté le plus longtemps et depuis hier, le seul en fonction et inculpé. Alors sans doute a-t-il aussi sa place réservée en prison, c'est plausible, mais pas tout de suite. Son prédécesseur Ehud Olmert vient d'y passer près d'un an et demi pour quelques milliers d'euros. Des ministres, un ancien président ont fait de la prison ferme. Les juges israéliens sont jaloux de leur indépendance. C'est l'équilibre des pouvoirs à l'anglo-saxonne.
Benjamin Netanyahou dénonce lui un coup d'État.
Il en appelle au peuple contre le gouvernement des juges. Il dénonce la gauche qui complote. Il a du mal à convaincre car c'est lui qui a nommé le procureur général. Depuis un an, Benjamin Netanyahou a tout tenté pour lui échapper, mais il n'a pas trouvé de majorité pour lui voter une immunité. Et le comble, c'est qu'il n'a jamais été aussi influent. Il est reçu au Kremlin, il est chez lui à la Maison Blanche, il parle la nuit avec les émirs du Golfe, et lundi, Donald Trump a autorisé purement et simplement la colonisation des territoires occupés, ce qui va parachever l'annexion de pans entiers de la Cisjordanie et l'enterrement du processus d'Oslo. Israël regarde Bibi qui tombe, ça va prendre du temps car il tombe de très haut.
Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.
C'est un retour attendu, scruté. Celui de Neymar. Un peu plus d'un mois après sa blessure à la cuisse, la star brésilienne revient au Parc des Princes. Il sera titulaire ce soir face au LOSC.
L'entraîneur Thomas Tuchel attend beaucoup de ce retour, même si la dernière escapade de Neymar pour assister à un match de la Coupe Davis à Madrid n'a pas été du coup du coach du PSG, Julien Froment.
Pour le Davis Cup.
Qu'est-ce que je peux faire, Amine ? Je ne suis pas son papa, je ne suis pas la police.
Mis devant le fait accompli, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, n'a pas trop su quoi dire pour qualifier l'escapade de Neymar à Madrid. Rappel des faits, le Brésilien, invité par son ami, le joueur du FC Barcelone, Gérard Piqué, est allé voir des matchs de Coupe Davis mardi dernier sur son temps libre. Tuchel, fataliste, préfère retenir l'implication de son joueur à l'entraînement.
Comme entraîneur, est-ce que j'aime cette voile ? Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est le moment de perdre mon tête ? Non, ce n'est pas le moment. Et il a fait bien, il a fait très professionnel ici pendant cette 2 semaines.
Une certitude, Neymar jouera ce soir au Parc des Princes contre Lille. Reste à savoir combien de temps et surtout avec qui. Thomas Tuchel espère toujours l'associer au Français Kylian Mbappé car pour l'instant, cette attaque à 400 millions d'euros n'a disputé qu'une petite demi-heure de jeu ensemble depuis le début de la saison. C'était à Bordeaux en septembre dernier.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
8h16, votre invité Sonia.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, au moment où le ton se durcit avec le gouvernement, la CFDT cheminot appelle à la grève le 5 décembre. Se dirige-t-on vers une contagion sociale ? Il en a en partie la réponse. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
A tout de suite sur Europe 1.